porte s'ouvre. Alors qu'il a déjà été reçu en qualité d'invité, Hernán Cortés pénètre aujourd'hui dans une Tenochtitlan Mexico en ruine, traumatisée par un siège terrible. Dans les quartiers préservés, la ville est neuve, puisque son essor ne date que d'un peu moins d'un siècle. Ses bâtiments magnifiques n'ont pas encore subi les affres du temps. Non loin du cœur de la capitale, le Templo Mayor, inauguré en 1487, rappelle que la civilisation de l'empereur Moctezuma est bien différente de celle de Cortés. Ici, pour célébrer l'édification du temple, des milliers de guerriers sont morts, sacrifiés sur l'autel de leur religion et de leur croyance. Bientôt, l'édifice sera rasé par le conquistador. Il règne pourtant encore au cœur de la ville une incroyable civilité qui égale, voire surpasse, l'aura de Madrid ou de Londres. En ce pesant jour d'été, le destin de l'Empire aztèque bascule. Hernán Cortés vient de faire plier l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire. À l'autre bout de l'océan, en Espagne, à Séville, un jeune musicien s'apprête à terminer sa formation. Déjà, la famille Borgia lorgne sur ses talents d'organiste. Sa vie, à lui aussi, s'apprête à changer. En attendant, l'un de ses encadrants, Francisco de Peñalosa, l'observe jouer l'une de ses œuvres. Au programme aujourd'hui, son Magnificat. Dans la cathédrale de Séville, les voix résonnent à l'unisson. La conquête de la capitale de Tenochtitlan, Mexico, est le point d'orgue de la carrière de Cortés. Elle marque aussi le début d'un terrible massacre, celui des Aztèques, qui pour plus de 90% d'entre eux vont disparaître. Un point de bascule véritable s'opère dans le récit commun de l'humanité en ce début du XVIe siècle. Car plus encore que l'histoire mexicaine, la destruction de l'Empire aztèque et ses conséquences concernent en premier chef les Européens et leurs mains tachées de sang. Retour le jeudi saint de l'année 1519. Hernán Cortés, sur le pont du navire de tête de son expédition, s'y flotte. Pour l'heure, tout se passe pour le mieux. Derrière lui, les 10 autres vaisseaux de sa flottille naviguent eux aussi sans encombre. Voilà 6 mois qu'ils ont quitté le confort relatif de Santiago pour se lancer dans une aventure hors norme, celle de trouver la cité de toutes les richesses. Les locaux en parlent avec des étoiles dans les yeux. Cortés, dans son armure empanachée, observe ses hommes. Dans les vaisseaux, ils sont 109 marins, 508 soldats, 4 couleuvrines, une dizaine de canons, une trentaine d'arbalètes, 13 arquebuses, près de 20 chevaux, sans oublier un notaire pour le droit et un moine pour mener à bien les conversions des autochtones. Le chef de l'expédition, fier comme un coq, n'est pas passé loin de la catastrophe. Alors qu'il a accompagné le premier gouverneur de Cuba dans sa conquête de l'île, son ambition a manqué de le perdre. Secrétaire particulier de Diego Velázquez de Cuellar, voilà bien des années qu'il souhaitait partir en expédition. Son manque d'expérience a manqué de lui coûter sa place. Alors, pour ne pas être évincé par un officier venu d'Europe, il est parti sans attendre les ordres de son supérieur. Et voilà qu'aujourd'hui, après un voyage calme et une première escale près du fleuve Tabasco, les navires approchent du but. En ce jour si particulier pour les catholiques, le symbole est particulièrement vif pour Cortés. Il est soutenu par le Seigneur dans son entreprise. Il n'a plus aucun doute. Son premier contact avec les Amérindiens près du Tabasco s'est transformé en boucherie. L'empereur Moctezuma, l'homme aux manettes au Mexique, est une ombre pour les Espagnols. Ils ne l'ont jamais rencontré, mais en apprenant l'arrivée des Européens, le souverain a placé des vigies et des soldats partout le long des côtes. Oh, Cortés n'est pas idiot. Dès son départ de Santiago, il a anticipé ses manœuvres de l'ennemi. Au large de Cuba, il a appris à ses hommes à recharger vite leurs armes. Ils sont devenus redoutables. Sur le pont des navires ou lors des opérations de débarquement. Bon, c'est bien simple. Lors du premier accrochage, Cortés a écrasé ses adversaires. Sa cavalerie l'a sauvé. Et comme il est de coutume, Les vaincus lui ont offert un butin. Son contenu dépasse l'entendement. Pierres précieuses, amulettes, bijoux en or et femmes. Parmi ces dernières, Malinali. En très peu de temps, la captive devient la maîtresse de Cortés. Plus encore, elle est son interprète. Les rouages de la grande histoire se mettent en marche. Bientôt, l'Empire aztèque sera débordé par ce diable de conquistador. Il rêve des récits que sa concubine lui fait au sujet de la capitale impériale. Elle ne cesse de lui parler de rivière d'or. Et si bientôt tout cela était à lui, il deviendrait sans conteste l'un des maîtres du Nouveau Monde. Une perspective qui va guider ses pas. À l'autre bout de l'océan, en Espagne, un jeune homme est loin de se douter de l'expédition en cours. À Séville, auprès du maître de la chapelle de la cité sévillane, le petit Cristobal de Morales est en train de parfaire son art en tant qu'organiste. Parmi ses professeurs se trouve déjà Francisco de Peñalosa, l'un des plus grands compositeurs ibériques de la fin du XVIe siècle. Remarque tout le potentiel du petit Morales. Il n'est pas rare que le jeune garçon ait le droit à des cours particuliers. Aujourd'hui, alors que transitent à Séville les marchandises exotiques et rarissimes du Nouveau Monde, Cristobal de Morales chante Inter Vestibulum, l'une des plus belles compositions de son aîné Peñalosa, qui témoigne d'un art raffiné, unique. Au cœur du Nouveau Monde, Hernán Cortés s'est lancé dans l'aventure de sa vie. Elle va tourner au massacre. Européenne de l'Amérique centrale commence quelques années avant la naissance de Cristobal de Morales. En 1492, un Génois change la face du monde en traversant l'océan Atlantique. Christophe Colomb, avec ses 95 marins et ses 3 navires, marque le début des temps modernes en posant le pied aux Caraïbes. Pour cela, il lui a fallu 2 mois de traversée et des années pour convaincre les souverains espagnols de la viabilité de son projet. Le voyage ne fut pas de tout repos. Les nefs qui ont quitté l'Espagne le 3 août doivent faire face à de très nombreux défis. En premier lieu, des conditions climatiques incertaines provoquent un retard non négligeable. Cela se conjugue à des complications techniques. Une véritable tension se propage dans les équipages et Colomb échappe de peu à une mutinerie. Le 1er octobre, après une tempête, les marins de la Pinta se révoltent. Le voyage dure plus longtemps que prévu. Colomb a 3 jours de délai pour atteindre son but, pas un de plus. Dans le cas contraire, les mutins renverseront leur capitaine. Cela va prendre un peu plus de temps, mais en changeant de cap et en découvrant des vols d'oiseaux migrateurs, la ligne terrestre est découverte à l'aube du 12 octobre, sans mutinerie. Persuadé d'avoir atteint les Indes et l'Asie du Sud-Est par l'Ouest, le navigateur met le pied en réalité sur un continent pas encore cartographié. Il mouille au large de l'île qu'il rebaptise San Salvador. Long Island, Saint-Domingue, Cuba, les découvertes s'enchaînent. Colomb fait face aux populations locales qui portent des bijoux en or. Des richesses ? Déjà, le navigateur se persuade qu'il va devenir très riche en localisant l'or des Amérindiens. Colomb n'est pas le seul grand explorateur de l'époque. Vasco de Gama, Magellan, ils sont nombreux à faire de l'Europe la première puissance du monde. Mais au milieu de cette myriade d'aventuriers, Colomb est une figure centrale lorsqu'on évoque le Nouveau Monde. D'ailleurs, grâce au traité de Tordesillas, signé en juin 1494, Espagnols et Portugais se partagent ces immenses territoires récemment découverts. Un méridien situé à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert en forme la frontière. À l'est de la ligne, le Portugal est le seul maître à bord. À l'ouest, l'autorité revient à l'Espagne. Le pape Alexandre VI est l'homme qui chaperonne cette politique de partage. Car déjà s'immisce un impérieux besoin. Convertir les autochtones et plus encore, imposer le catholicisme partout. Colomb a ramené dans ses bagages ces Amérindiens qu'aucun Européen n'avait encore vus de mémoire d'homme. L'Église veut les ramener dans le chemin du Christ, quoi qu'il en coûte. C'est dans ce contexte politique qu'une génération de nouveaux explorateurs et militaires se forge autour d'une volonté claire, celle de connaître le succès et la gloire à l'autre bout du monde. Cortés est alors un jeune homme ambitieux. Né en Espagne en 1485, issu d'une famille noble habituée à jouer les premiers rôles, il grandit au milieu de ce processus de reconquista mené par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Au fond, la découverte de Colomb et les conquêtes associées s'inscrivent dans un temps long durant lequel l'Espagne fait grandir son pouvoir et impose le catholicisme par les armes. Grenade est reprise aux Maures en janvier 1492. L'Amérique est découverte en octobre. Bref, plus rien ne s'oppose à la conquista, la conquête du Nouveau Monde. Cortés va en devenir le symbole le plus vif, même s'il faut bien le dire, au départ, le conquistador n'est pas attiré par la chose militaire. Il se lance même dans des études de droit à Salamanque, menant à bien son cursus de manière brillante. Une donnée importante à prendre en compte pour la suite des événements. Cortés n'a pas encore 20 ans lorsque la fièvre de l'aventure le gagne. Direction Hispaniola, l'actuel Saint-Domingue, découverte par Colomb. Là, le jeune explorateur entame une carrière qui le mène vers de nombreux horizons. Notaire, écrivain et même chercheur d'or, Cortés entre bientôt au service de Diego Velázquez de Cuéllar, l'un des tout premiers conquistadors en qualité de secrétaire particulier. Un poste qui va lui ouvrir de nouveaux horizons et aiguiser son appétit. En 1511, Velázquez de Cuéllar se lance dans la conquête de Cuba. Il va en devenir le premier gouverneur. Cortés est à ses côtés durant toute l'opération et se fait remarquer à de nombreuses reprises par son supérieur hiérarchique. Dès lors, tout va très vite pour le jeune Espagnol, alors qu'il ne dispose d'aucune expérience militaire ou de conquête, si ce n'est celle qu'il vient de vivre avec lui. Velázquez de Cuéllar nomme Cortés à la tête d'une nouvelle expédition en 1519. Il manque de peu de lui retirer le commandement pour nommer un officier plus expérimenté, mais le jeune homme quitte le territoire sans demander son reste. L'Espagne, qui prend possession petit à petit de son côté du méridien, se retrouve face à un élément naturel qui entrave sa progression. Les conquistadors doivent franchir le golfe mexicain et trouver ce qui se cache sur l'autre rive. Cortés, premier découvreur du Mexique, la réalité est tout autre. Deux autres expéditions avant la sienne ont permis de poser le pied dans la zone. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba prend la direction du Yucatán et tente d'y accoster afin d'y récolter des richesses. Mais il est repoussé sans ménagement par les autochtones. L'année suivante, d'autres navires menés par un autre explorateur font de nouvelles découvertes, notamment la Isla de Sacrificios. Les Européens y découvrent des restes humains, ainsi que des pratiques rituelles sacrificielles. Terrorisés, les Espagnols rebroussent chemin et se rendent non loin des côtes du Tabasco. Ils y reçoivent un accueil plus chaleureux, plus amical. Ces incursions, si elles ne sont pas couronnées de succès, permettent néanmoins aux Espagnols de se rendre compte d'une chose. Une civilisation puissante est maîtresse des lieux. Les conquistadors, grâce à des murmures récoltés ici et là, se persuadent que d'immenses richesses y sont à découvrir. Alors Velázquez de Cuéllar décide de lancer une mission pour en avoir le cœur net. Cortés est nommé à la tête d'une flottille qui part de Santiago le 18 novembre 1518, malgré le conflit larvé qu'il oppose depuis peu à son supérieur. Il lui faut un peu moins de 6 mois de voyage pour atteindre sa destination finale. Après quelques escales, le 22 avril 1519 marque son arrivée dans la baie de San Juan. Pour l'Empire aztèque, c'est le début de la fin. 1538. Au bord de la mer Méditerranée, la grande histoire se joue sous le soleil brûlant et sous l'apanage du pape. Le souverain pontife, Paul III, est sur tous les fronts depuis qu'il siège au Vatican. Face à la montée du protestantisme, il tente de réformer l'Église de Rome. Déjà germe dans son esprit la nécessité d'organiser un concile. Dès 1545, le concile de Trente va marquer son temps. Mais en attendant, c'est sur le terrain de la géopolitique qu'on retrouve le pape. À Nice, il réussit le tour de force de réunir deux souverains qui ne cessent de se faire la guerre depuis des dizaines d'années. Face à lui, d'un côté Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire et sans conteste le plus puissant du continent européen. De l'autre, l'immense François Ier, aussi grand par la stature que par le caractère. Marignan, Pavie, les guerres d'Italie mettent l'Europe à feu et à sang depuis trop longtemps. Il faut trouver une solution. Sous son patronage, les deux monarques ont accepté de s'entendre sur une trêve de 10 ans. Il faut dire que le poids politique de Paul III depuis l'année dernière est grandissant. En publiant sa bulle intitulée « Sublimis Deus », il a jeté un pavé dans la mare et s'est attiré les foudres des Espagnols. Le Saint-Père proclame ceci. Les autochtones d'Amérique sont des êtres humains dotés d'une âme rationnelle. Ils ne peuvent être ni réduits en esclavage, ni privés de leurs biens. Autrement dit, la campagne de Cortés, menée il y a de cela plus de 10 ans, est pointée du doigt, vilipendée. En Europe, mais aussi au cœur du Nouveau Monde, le sang qui s'est déversé a entraîné de nombreuses réactions en chaîne. Dans le cortège papal, Cristobal de Morales, musicien pour la célèbre chapelle Sixtine depuis l'année dernière, est témoin de cette situation comme tous ses contemporains. L'Espagnol en poste en Italie reçoit régulièrement des nouvelles de son royaume d'origine. Et les avis au sujet du traitement infligé aux autochtones sont pour le moins partagés. Pour le moment, l'heure est à la fête. En l'honneur de ce haut moment diplomatique, Cristobal de Morales a été chargé de composer un motet. En plein milieu de la réception, Jubilate Deo Omnis Terra, œuvre de paix et d'espoir, va marquer les esprits. De l'autre côté de l'océan, l'ambiance est tout autre. Tous les Aztèques, ou presque, sont morts. Ce massacre porte le nom d'un responsable, Hernán Cortés. Lorsqu'il débarque dans le golfe de San Juan à la Pâques 1519, le conquistador et ses soldats sont accueillis par des émissaires de l'empereur Moctezuma. Un grand jeu de dupes commence alors. Mets divers et logements sont offerts aux Espagnols qui ont apporté des cadeaux. Si Moctezuma est enfermé à Mexico, il sait que sa population a eu l'occasion de rencontrer ces Européens qui l'inquiètent tout particulièrement. Mis en relation avec le gouverneur local, Cortés se présente, de façon mensongère, comme l'envoyé spécial du roi d'Espagne, précisant qu'il est chargé de rencontrer l'empereur. Mais la demande n'est pas acceptée par les locaux, qui se contentent d'offrir de nouveaux cadeaux au conquistador. L'or qu'on lui remet alimente évidemment son envie de mettre la main sur les immenses trésors dont on lui a parlé. Pour impressionner ses hôtes, Cortés organise une grande parade militaire, espérant forcer la main au gouverneur et être conduit à la capitale. Mais il n'en est rien. Plus encore, les Aztèques, qui nourrissaient ses troupes, se retirent et disparaissent. L'Espagnol ne perd pas espoir, bien au contraire. Différentes rencontres lui permettent de nouer des liens et de comprendre que certaines communautés sont loin d'être en accord avec la politique menée par Moctezuma. Il trouve donc de l'aide dans son entreprise et plus encore obtient l'allégeance de certaines entités. C'est notamment le cas de la ville de Quempoala, dont le chef se plaint de la pression exercée par les gouvernants aztèques à son égard. Cortés se voit déjà aux portes de la capitale. Mais son ambition le pousse à désobéir aux volontés du gouverneur de Cuba, encore et encore. Parmi ses hommes, certains refusent de supporter un tel affront. Mais le conquistador est un malin. Rappelez-vous, il dispose d'une solide formation juridique. Alors il va s'employer à contrecarrer l'action de ses opposants. Il décide en premier lieu de fonder une ville, Villa Rica de Veracruz, qui se dote d'un organe de gouvernement. Ce conseil vote alors les pleins pouvoirs à Cortés. Maintenant, c'est lui qui décide. Enfin, du moins c'est ce qu'il croit. Une partie de ses opposants tente tout de même de voler un des navires pour rentrer à Cuba et prévenir le gouverneur Velázquez de Cuellar. Mais arrêtés au tout dernier moment, ils sont sévèrement châtiés. Plusieurs sont même condamnés à mort. Le sang commence à couler. Ça ne va plus s'arrêter. Pour se prémunir de toute tentative de rébellion qui pourrait entraîner une fuite, Cortés prend la décision folle de faire échouer tous ses navires. Le conquistador est déterminé à mener à bien ses projets les plus fous. Pour cela, aucune limite. Au début du mois de septembre, alors qu'il s'est enfoncé dans les terres à la recherche de la capitale, Cortés se retrouve nez à nez avec les Tlaxcaltèques, les habitants de la cité de Tlaxcala. Informé de leur hostilité envers l'empereur Moctezuma, Cortés tente de les amadouer. Mais ils refusent et s'engagent même militairement contre lui. Le conquistador s'en sort de justesse, après avoir conclu un accord d'alliance avec eux. À Cholula, le chef espagnol tombe sur une cité ralliée aux Aztèques. Les événements qui s'y déroulent sont flous. Les Espagnols annoncent avoir déjoué un complot de la part des habitants, ce qui conduit au massacre de la population. Mais le Codex de Florence, et bien des chercheurs depuis des siècles, mettent en doute cette version des faits. Selon eux, Cortés aurait ordonné la mise à mort de la population désarmée. Il inspire la peur, l'horreur, et Moctezuma tente, coûte que coûte, de les détourner des murailles de la capitale. Il envoie des émissaires, échafaude des stratégies pour repousser les Espagnols. Mais cela ne fonctionne pas. Les Européens prennent le chemin de la capitale. Plus rien ne peut les arrêter. Le 8 novembre 1519, Cortés est à quelques encablures de la grande cité de Tenochtitlan, Mexico. Soudain, alors qu'il s'apprête à atteindre les portes, des hommes viennent à sa rencontre. Au milieu des dignitaires se trouve l'homme le plus puissant du Mexique, l'empereur Moctezuma. Le face-à-face à venir entre les deux chefs.